Mes seigneurs, je suis ici d'ordre du régent de France pour vous notifier de bien vouloir désormais vous adonner uniquement à l'élection d'un pape et de même vous faire connaître que vous ne sortirez pas avant que ce pape soit élu. Chacun des cardinaux ne gardera auprès de lui qu'un chapelain et deux damoiseaux ou clercs de son choix pour son service. Tous autres se peuvent retirer. »
Cette proclamation souleva une indignation unanime.
« C'est félonie !» s'écria le cardinal de Pellagru. « Le comte de Poitiers nous avait fait serment que nous n'aurions même pas à entrer en clôture, et c'est à ce prix que nous avons accepté de rejoindre à Lyon. » « Le comte de Poitiers, » répondit Jean de Forez, « engageait alors la parole du roi de France. Mais le roi de France n'est plus, et c'est la parole du régent qu'aujourd'hui je vous porte. »
La fureur à présent unissait les représentants des trois partis, dont les invectives se mêlaient en provençal, en italien et en français. Le cardinal Duèze s'était effondré dans un confessionnal la main sur le cœur, comme si son vieil âge ne pouvait supporter un tel coup. Et il feignait de s'associer aux protestations par des murmures inaudibles. Le cardinal d'Albano, Arnaud d'Auche, celui-là même qui était venu naguère à Paris prononcer la condamnation des Templiers, s'avança vers le comte de Forez et lui déclara d'un ton menaçant
« Messire, un pape ne se peut élire en de telles conditions, car vous violez la constitution de Grégoire X qui oblige le conclave à se réunir en la ville où le pape est mort. Vous vous y trouviez, monseigneur, voici 2 ans, et vous vous êtes égayé sans avoir élu de pape, ce qui contrevenait à la constitution. Mais si vous souhaitez d'aventure être reconduit à Carpentras, nous vous y ferons mener sous bonne escorte, en char fermé. Nous ne devons point siéger sous menace de la force. C'est pourquoi 700 hommes d'armes, monseigneur, sont dehors, à votre garde, fournis par les autorités de la ville afin d'assurer votre protection et votre isolement, ainsi qu'il est prescrit par la Constitution. Le sire de la Voulte que voici, et qui est de Lyon, est chargé d'y veiller. Messire le régent vous fait savoir également que si, au 3e jour, vous n'êtes pas parvenu à vous mettre d'accord, vous ne recevrez à manger qu'un seul plat de la journée, et à partir du 9e, n'aurez plus que le pain et l'eau. Comme cela est dit également dans la constitution de Grégoire, et qu'enfin, si la lumière ne vous vient point par le jeûne, il fera détruire la toiture pour vous mettre mieux à même de la recevoir du ciel. »
Béranger Frédol, l'aîné, intervint.
« Messire, c'est vous charger d'homicide que nous soumettre à un tel traitement, car il en est parmi nous qui ne le saurons supporter. Voyez monseigneur Duèze, déjà tout écroulé et qui aurait besoin de soins. »
« Ah, certes, dit faiblement Duèze. « Je ne le pourrais supporter. »«
Nous voyons bien que nous avons affaire à des bêtes puantes et féroces !» cria Caetani.
« Mais sachez, messire, qu'au lieu de faire un pape, nous allons vous excommunier, vous et votre parjure !»«
Si vous tenez séance d'excommunication, monseigneur Caetani, » répondit calmement le comte de Forez, « le régent pourrait alors fournir au conclave le nom de certains envoûteurs et sorciers qu'il conviendrait de placer en tête de fournée.
Je ne vois point !» dit Caetani, battant aussitôt en retraite. « Je ne vois point ce que la sorcellerie vient faire en ceci, puisque c'est du pape que nous devons nous occuper. »«
Eh, monseigneur, nous nous entendons bien. Veuillez donc renvoyer les gens qui vous sont inutiles, car il ne saurait y avoir assez de vivres pour en nourrir autant. » Les cardinaux comprirent que toute résistance serait vaine et que cette cuirasse, qui leur transmettait d'une voix tranchante les ordres du comte de Poitiers, ne fléchirait pas. Déjà, derrière Jean de Forez, les hommes d'armes commençaient à entrer un par un, pique en main, et à se déployer dans le fond de l'église.
« Nous jouerons de ruse si nous ne pouvons jouer de force, » dit à mi-voix Caetani aux Italiens. « Feignons de nous soumettre, puisque pour l'heure nous ne pouvons rien d'autre. »
Chacun choisit dans sa suite ses 3 meilleurs serviteurs, ceux qu'il pensait les plus fidèles ou les plus habiles, ou les plus aptes à lui apporter service du corps dans les difficiles conditions matérielles où tous allaient se trouver. Caetani garda auprès de lui le clerc Andrieux, le frère Bost et le prêtre Pierre, c'est-à-dire les hommes qui avaient trempé dans l'envoûtement de Louis X. Il préférait les voir enfermés avec lui que risquant de parler pour argent ou sous la torture. Les colonnards retinrent à leur côté 4 damoiseaux qui avaient des poings d'assommeurs de bœuf. Porte-torches, porte-traînes, clercs et chanoines qui n'étaient pas désignés sortaient un par un devant la haie des hommes d'armes. Leur maître, au passage, leur soufflait des recommandations.
« Faites avertir mon frère l'évêque, écrivez en mon nom à mon cousin, partez sur le champ pour Rome !»
Au moment où Guccio Baglioni se disposait à prendre la file des sortants, Jacques Duèze étendit sa main maigre hors du confessionnal où il gisait effondré et saisit le jeune Italien par la côte en murmurant «
Restez, petit, restez auprès de moi. Je suis sûr que vous me serez secourable. »
Duez savait que les puissances d'argent ne sont en aucune circonstance négligeables, et il pensait avoir intérêt à conserver auprès de lui un représentant des banques lombardes. Une heure plus tard, il ne demeurait dans l'église des Jacobins que 96 hommes, destinés à y rester aussi longtemps que 24 d'entre eux ne se seraient mis d'accord pour en choisir un seul. Les gendarmes, avant de se retirer, jetèrent des brassées de paille pour former la couche à même la pierre des plus hauts prélats de ce monde. Et ils apportèrent quelques bassins ainsi que des grandes jarres pleines d'eau. Puis, les maçons, sous l'œil du comte de Forez, achevèrent de murer la dernière issue, ne laissant d'autre ouverture qu'une petite baie carrée, une lucarne suffisante pour le passage des plats, insuffisante pour le passage d'un homme. Tout autour de l'église, les soldats avaient repris leur faction. Disposés de trois toises en trois toises, sur deux rangs, un rang adossé au mur et regardant vers la ville, un rang tourné vers l'église et regardant les vitraux. Vers midi, le comte de Poitiers se mit en route pour Paris. Il emmenait dans sa suite le dauphin de Viennois et le petit Dauphinet, lequel vivrait désormais à la cour de France, afin de s'y familiariser avec sa fiancée de 5 ans. À cette heure-là, les cardinaux reçurent leur premier repas. Comme c'était jour maigre, ils n'eurent pas de viande.